Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Viens Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous de éloigner dans ce monde et aide-nous d'avoir un esprit calme pour t'écouter ta parole et mettre en pratique. Attaché sur la croix. Nous voulons te suivre avec la foi que tu nous donnes. Aide-nous de comprendre ta parole et nous te remettons ce temps entier à toi. Viens, Seigneur. Et prions ton nom, Jésus-Christ. Amen. Comme le francophone qui souhaite prend le livre de Jacques dans le texte que nous allons voir ensemble. Donc aujourd'hui, je partage avec vous ce passage Jacques chapitre 1 au 12 versets. L'auteur de cette épître est probablement Jacques, frère du Seigneur, considère comme une colonne. Il a joué un rôle important dans l'assemblée à Jérusalem. Le titre « L'esclave » que Jacques s'attribuait dans la salutation exhorte déjà le lecteur à une entière soumission à la volonté de Dieu. Le contexte, après le meurtre d'Étienne, de nombreux croyants juifs vivant à Jérusalem ont fui de partout et l'Église a subi pour la première fois une persécution. Toutefois, si on considère les choses d'un point de vue positif, on voit que les fidèles sont devenus des propagateurs de l'Évangile. Les croyants ont abandonné leur foyer, mais ils n'ont pas abandonné leur foi et n'ont pas abandonné la mission de l'Évangile. Partout où ils se déplacent, l'Évangile se propage et l'Église s'agrandit. Jacques s'adresse aux 12 tribus, donc à l'ensemble du peuple d'Israël que Dieu considère toujours dans son entier malgré la dispersion, qui est une conséquence de son péché. Sachons-nous aussi voir l'Église entière, c'est-à-dire ensemble de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Bien que les fidèles soient dispersés actuellement, le Seigneur connaître chacun de nous par son nom. J'ai cité deux versets de Jean et de Timothée, de verset 19. Dans le livre de Jacques, les 12 tribus font référence aux Juifs et à ceux qui croient en Jésus-Christ. Avoir la foi chrétienne ne veut pas seulement dire que nous avons une nouvelle identité, mais nous avons aussi des missions et des responsabilités. Par exemple, est-ce que votre identité chrétienne affecte votre compréhension de la culture chinoise? Est-ce que cela affecte vos enfants, le conjoint de quelqu'un ou les parents de quelqu'un? Est-ce que cela affecte votre profession, votre carrière et votre travail? Est-ce que le christianisme ajoute une signification spirituelle et une responsabilité à votre identité? Cet après-midi, j'aimerais partager avec vous ce texte qui comprend 4 points principaux. Le travail de Dieu dans le croyant. L'épreuve peut produire en nous un changement de vie. Un changement de vie. Demandez la sagesse à Dieu, il est plus important de plaire à Dieu que de se concentrer sur les problèmes pour les résoudre. Être pauvre ou être riche, l'état spirituel est plus important que le statut social. La récompense de la fidélité, la couronne de la vie. Je partage le premier point, le travail de Dieu dans le croyant. L'épreuve peut produire en nous un changement de vie. À quelle épreuve est-ce que notre foi va être confrontée? Jacques dit que nous rencontrons diverses épreuves. La signification de diverses dans le texte original correspond à une variété de couleurs. Le mot est habituellement utilisé pour décrire les taches sur la peau de léopard ou les rayures de différentes couleurs sur de la pierre. Ce mot signifie que nous rencontrons toutes sortes de problèmes. Les tentations que rencontrent les chrétiens ne sont pas toujours les mêmes. Il en existe de nombreuses variantes. Nous devons donc reconnaître que la tentation est bien réelle, mais nous ne devons pas être troublés. Jacques chapitre 1, versets 2 au 4, réfère à l'épreuve dans chapitre 1, versets 13 au 14. Le mot tentation apparaît à plusieurs reprises. Dans le texte grec, épreuve et tentation sont le même mot, mais ce mot a deux significations. L'épreuve provoque une transformation de l'environnement, une pression externe et un sentiment d'oppression. Après un certain temps, les gens peuvent grandir et mûrir. Et donc l'épreuve a un effet positif. La tentation est la convoitise dans l'être intérieur, où le désir se manifeste et pousse l'homme à commettre un acte mauvais contraire à la volonté de Dieu. Mes frères, considérez comme un sujet de joie. Comment pouvons-nous nous réjouir des épreuves? Est-ce que qu'on va réjouir en voyant quelqu'un qui a un accident de voiture? Si quelqu'un est malade dans la famille, est-ce que quelqu'un viendra le féliciter? Non. La souffrance peut nous rendre tristes et nous décourager. Mais nous, en tant que chrétiens, nous croyons que les difficultés, les dilemmes et les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est Dieu qui les permet. Mais finalement, nous bénéficions du résultat, même si aujourd'hui nous ne connaissons pas encore les intentions de Dieu. En fait, c'est Dieu qui nous fait passer à l'examen. Comment pouvez-vous vous réjouir dans la souffrance? Ce que Jacques veut nous montrer, c'est que nous devons comprendre la souffrance dans la perspective de la foi. La souffrance est le test que Dieu nous fait passer pour mettre à l'épreuve notre foi et pour la rendre plus solide. La foi est une chose qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas prouver par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas la prouver que si nous avons la foi dans l'épreuve de la souffrance. Nous vivons dans un monde qui ne croit pas du tout en Dieu. Prouver la vérité de notre foi, nous ne faisons dans l'épreuve. La vraie foi ne se voit pas dans les choses faciles auxquelles les gens peuvent applaudir ou obtenir une récompense instantanée. Il n'y a pas de vandalisme dans la foi. Ce n'est que dans une situation qui s'oppose à la foi, telle que la persécution, que les gens qui vous entourent vous demandent d'abandonner votre foi et ils disent que vous agissez contre votre intérêt et essayent de vous influencer. À ce moment-là, si on continue à exercer notre foi, nous nous conduisons comme de vrais chrétiens. Dans le dictionnaire, nous trouvons la définition du mot patience. Patience, vertu qui consiste à endurer avec constance, résignation, les vicissitudes, les malheurs. Qualité qui consiste à supporter sans patience le comportement pénible d'une personne. Qualité qui consiste à persévérer dans une entreprise longue et pleine d'obstacles. Qualité qui consiste à atteindre quelqu'un ou quelque chose qui tard sont marqués d'impatience. Après l'épreuve de la foi, la patience est née. Jacques chapitre 1, verset 3. La patience signifie que nous devons faire face à la souffrance pendant un certain temps et laisser à Dieu une période de temps pour restaurer notre vie spirituelle, pour que nous devenions des hommes à qui il ne manque rien. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien, dans la version de Louis II, sans faillir en rien à la fin. En d'autres termes, les épreuves ont une raison d'être. Les épreuves nous apprennent à devenir plus matures et plus accomplis, sans faillir en rien. Donc, face aux difficultés, nous pouvons choisir de les fuir et de les éviter en pensant qu'en agissant de cette façon, nous pouvons facilement traverser ces périodes d'épreuves. Mais la plupart des chrétiens savent que si nous ne traversons pas des temps d'épreuves, nous ne pouvons pas nous tester nous-mêmes, ni acquérir l'expérience nécessaire pour bien équiper notre foi spirituelle. Verset 4, Jacques dit, « Or, il faut que l'endurance l'accomplisse son œuvre. » Parfois, lorsque les difficultés viendront, nous serons confus et nous essayerons de raccourcir le temps d'épreuve. Par exemple, nous nous précipitons chez le médecin et nous prenons un tas de médicaments pour obtenir un résultat rapide. Mais sans avoir demandé au Seigneur sa volonté au sujet de cette épreuve. Ce faisant, nous bloquons souvent les projets de Dieu dans nos vies. Avant l'accomplissement de la volonté de Dieu, nous devons parfois faire face à une épreuve qui dure plus longtemps. Durant cette période, nous devons cultiver, j'utilise le mot cultiver, cultivation, la patience et ne pas prendre le chemin raccourci. Tant que nous décidons de marcher avec Dieu, nous deviendrons les chrétiens mûrs et accomplis. Pour prouver notre fidélité à Dieu, c'est que le Seigneur nous demande. Dieu voit votre foi comme une graine précieuse dans votre vie. Il permet que vous soyez soumis à toutes sortes d'épreuves, de sorte que la graine de votre foi produise de la patience. Et quand la patience est mise à l'épreuve, elle nous affermit et nous rend matures et mieux équipés afin que nous ne manquions de rien. Par conséquent, dans nos souffrances, lorsque nous considérons que ces souffrances ne sont pas causées par nos erreurs, nous comprenons que c'est Dieu qui les permet. Nous sommes peut-être les victimes innocentes de quelque chose, mais Dieu ne nous a jamais abandonnés, car nous avons conservé la graine de la foi. Pour rendre nos vies plus mûres, nous utilisons ces souffrances pour nous purifier. Pour rendre nos vies plus mûres, nous utilisons ces souffrances pour nous purifier. C'est un cadeau de Dieu, une opportunité pour que la vie grandisse en nous et qu'il puisse nous utiliser davantage. Lorsque nous fixons nos regards sur Dieu, nous pouvons vivre la parole de Dieu pour cette raison. Dans toutes sortes d'épreuves, nous pouvons nous réjouir grandement. Déterminer qui est le plus grand défi ou la plus grande menace pour votre foi aujourd'hui. Déterminer quel est le plus grand défi ou la plus grande menace pour votre foi aujourd'hui. La plus grande menace, nous considérons. Est-ce qu'il y a quelque chose qui éprouve votre foi en Dieu et vous empêche de suivre Jésus-Christ avec fermeté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui éprouve votre foi en Dieu et vous empêche? On considérait, c'est un empêchement de suivre Jésus-Christ avec fermeté. Comment est-ce que vous allez vous préparer pour affronter les défis? Quelle est la méthode, la façon de préparation, Nous devons préparer, mes chers frères et sœurs. Deuxième point, demander de la sagesse à Dieu Il est plus important de plaire à Dieu que de se concentrer sur les problèmes pour les résoudre. Le chrétien réalise que s'il obéit à la volonté de Dieu, il ne manque de rien. Cependant, lorsque l'épreuve est là, il peut être ébranlé, ne sachant pas vraiment ce qu'il convient de faire. Alors, il doit s'adresser à Dieu avec confiance pour lui demander la sagesse. Dieu est prêt à exaucer une telle requête, car elle lui est agréable. Cette demande à Dieu doit être faite avec foi. Le doute provient de ce que la parole n'a pas sa pleine autorité sur l'âme. Quand le chrétien est agité, au lieu d'avoir une foi paisible, il devient le jouet des circonstances, comme les vagues sont le jouet des vents. Le chrétien qui marche par la foi peut trembler sous le vent de l'épreuve, mais le rocher sur lequel sa foi repose, lui, ne tremble jamais. Le chrétien qui ne doute nullement, verset 6, reste en paix, sachant que le moment venu. Il peut déployer sa foi et trouver un parfait refuge en Dieu. Il y a versets 6, 7 et 8 que je voulais vous présenter. Jacques chapitre 1, versets 5 au 8 nous rappelle que dans les épreuves, nous devons savoir demander à Dieu la sagesse. Lorsque nous rencontrons l'épreuve, nous pensons immédiatement à nombreuses façons d'y faire face. D'utiliser les ressources disponibles, de montrer notre capacité à résoudre des problèmes, de demander aux autres de nous aider. Tant que nous sommes capables de contrôler les choses, nous pensons que tout va bien, et nous oublions de prier Dieu. Jacques nous exhorte à demander à Dieu, mais que devions-nous demander? Jacques, chapitre 1, verset 5 dit, « Demandez la sagesse, car Dieu est un Dieu généreux envers tous, et il nous donnera sûrement avec assez de sagesse. » Quelle sagesse Dieu nous donnera-t-il lorsque nous faisons face à des difficultés? Nous pouvons demander à Dieu de nous donner la sagesse et la capacité de les résoudre. Et nous pouvons demander à Dieu de discerner les choses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le théologien américain Niels Bohr a adressé une simple prière aux soldats américains et les a laissés réfléchir. La prière disait « Mon Dieu, donnez-moi la paix de l'esprit et acceptez le fait que je ne peux pas changer les choses. » Donnez-moi le courage de changer ce que je peux changer. Mon Dieu, donnez-moi la paix d'esprit et acceptez le fait que je ne peux pas changer les choses. Donnez-moi le courage de changer ce que je peux changer. Donnez-moi la sagesse de faire la différence entre les deux. La prière de Niebuhr est très intelligente. Il ne demande pas à Dieu de nous donner la capacité de résoudre ses problèmes. Cette prière ne sert pas seulement à résoudre les problèmes. Elle permet aussi d'atteindre un autre niveau. C'est-à-dire que Niebuhr a prié pour que Dieu lui donne la capacité de discerner les choses correctement. La sagesse, c'est un pouvoir de Dieu qui aide les personnes à distinguer et qui leur permet de mettre la volonté de Dieu en pratique. Le concept de sagesse ne consiste pas à expliquer les problèmes de notre vie, ni à résoudre nos dilemmes. La sagesse des Juifs est de faire face aux différentes circonstances et de nous guider pour maintenir une attitude correcte quant à la pratique de la foi. Lorsque nous sommes sages, ce n'est pas la difficulté elle-même qui a de l'importance, mais le fait de savoir si nous avons toujours la bonne attitude pour vivre notre foi lorsque nous sommes confrontés à ces difficultés. Ce passage nous dit qu'il est plus important de plaire à Dieu que de résoudre les choses. La sagesse n'est pas centrée sur la capacité à résoudre des problèmes, mais sur la manière de placer Dieu à la première place. Mais sur la manière de placer Dieu à la première place. Mais sur la manière de placer Dieu à la première place. Même si l'épreuve est douloureuse, nous devons encore réfléchir à la traverser avec une foi réelle. Troisième point, le pauvre ou le riche. L'identité spirituelle est plus importante que le statut social. Jacques, chapitre 1, versets 9 au 11, explique comment traiter les personnes modestes. En regardant ces trois versets, le mot « épreuve » n'est pas mentionné. Jacques ne fait aucun lien ici avec l'épreuve. Mais après le contexte, Jacques 5, chapitre 5, versets 2 au 5, continue de parler du même sujet. Dans l'Église à cette époque, quelle épreuve spécifique devait-il affronter? Dans l'Église primitive, il y a des gens qui ont très peu de ressources et des gens riches qui vivent dans la discorde. Les personnes modestes sont sous-estimées et méprisées dans l'Église. Jacques chapitre 2, versets 5 au 8. Il faut au contraire que dans l'Église, les personnes ne traitent de manière égale. quelles que soient leurs conditions. À cette époque-là, la plupart des membres de l'Église appartenaient à la classe populaire et vivaient dans des conditions difficiles. Des études ont montré que les Russes constituaient 10% de la population et les pauvres 90%. Les pauvres étaient des travailleurs, des paysans ou des personnes atteintes de maladies. Leurs revenus étaient faibles et leur vie difficile. Jacques Noy nous a rappelé que dans l'Église, nous ne pouvons pas opprimer les pauvres. Lorsque les riches arrivaient à l'Église, ils étaient invités à prendre place. Lorsque les pauvres se rendaient à l'Église, on leur demandait de se tenir sur les marches. Ce qui est injuste. En faisant cela, les chrétiens blasphémaient le nom du Seigneur et ne lui rendaient pas gloire. Le christianisme n'a pas aboli les différences sociales, bien qu'il introduit dans les relations entre les hommes des notions nouvelles fondées sur l'amour de Dieu. Il s'agit pour le chrétien de savoir comment vivre à la place, au rang où Dieu l'a placé. Il s'agit pour le chrétien de savoir comment vivre à la place et au rang où Dieu l'a placé. C'est un test, une épreuve de sa foi. La condition sociale est provisoire. Elle s'achève après notre passage sur la terre. Cela est souligné à propos du riche qui passera comme la fleur de l'herbe. Le Seigneur a dit, la vraie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Luc 12, 15. Le riche, s'il est conscient de détenir les biens, donc il est seulement le gérant, doit s'attacher à celui qui demeure éternellement. Il peut se réjouir dans son humiliation. En communion avec son Seigneur, qui s'est humilié et a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Quant aux chrétiens pauvres, il ne manque de rien puisqu'il a Jésus. Le Seigneur s'est toujours approché des pauvres, des démunis. Il a eu compassion de ceux qui étaient dans le besoin. C'est dans une telle compagnie que se trouve le frère de basse condition, verset 9. Il est amené à être en communion avec le Seigneur de gloire. Il est amené à être en communion avec le Seigneur de gloire. Les pauvres sont exposés à la jalousie et à l'envie, mais ils sont riches en foi et héritiers du royaume. Les riches sont exposés à l'orgueil et à un sentiment de supériorité. Soyons rassurés que ceux qui sont les objets de l'amour divin, peuvent éprouver. Quel que soit leur rang social ou de fortune, des bénédictions spirituelles bien supérieures à tout ce que ce monde peut offrir. Des bénédictions spirituelles bien supérieures à tout ce que ce monde peut offrir. La récompense de la fidélité. Le verset 12 résume et conclut ce qui vient d'être dit des épreuves permises par Dieu pour manifester la foi. Ces tentations extérieures ne devraient pas troubler le chrétien, mais révéler au contraire sa patience et sa persévérance. La couronne de la vie se rapporte à une vie entière au cours de laquelle une telle patience a été produite pour la gloire de Dieu. Cette récompense personnelle, c'est-à-dire la couronne de la vie, est accordée au vainqueur, mais ce n'est pas sa fidélité qui lui permet de recevoir la vie éternelle. Car le fondement du salut, qui est toujours immérité, c'est la foi dans le Seigneur Jésus et elle repose sur son œuvre. En revanche, la fidélité ou l'infidélité au Seigneur dans notre vie entraîne des conséquences qui ne sont pas les mêmes pour tous. J'ai cité de verset 1, Corinthiens 3, verset 14 ou 15, Hébreux, chapitre 11, 35. Ou bien Pierre, je change à Pierre. Efforçons-nous d'être fidèles dans nos épreuves afin qu'ils en résultent de la gloire pour le Seigneur. Voilà, j'ai terminé mon prédication. Ce texte nous rappelle quatre points principaux qui nous conduit de réfléchir sur quatre points. Voilà, quelques conseils pratiques. Pour terminer ce message, nous devions poursuivre tout au long de notre vie la recherche de la perfection. Comme Paul dit dans Philippiens 3, 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours encore pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous devrions continuer de courir. Notre vie, c'est un course. Nous devrions courir tel nous pouvons. Deuxième, nous devrions avoir la patience en toutes choses. Sans la patience, on ne peut pas atteindre le but que Seigneur qui nous confions. Nous devions chercher sans cesse la volonté de Dieu avec la sagesse. Nous ne devions pas avoir le doute sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité, le sema et la vie. Nous devions manifester l'identité spirituelle en Christ. Nous devons témoigner, être du sel et lumière du monde. Je prie que Seigneur qui nous aide de réfléchir sur les conseils pratiques et mettre dans nos cœurs, chacun ici, cet après-midi. Prions ensemble. Merci Seigneur que tu nous aimes tellement, tu ne lâches pas par ton amour, par ta parole qui manifeste dans nos esprits pour éclairer vraiment les choses qui n'est pas claires dans notre vie. Et conduis-nous vers le but que, Seigneur, que tu nous demandais. Merci, Seigneur. Je prie en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons procéder le Saint-Seine. Le Saint-Seine. Voilà, c'est Paul qui l'a cité dans le Corinthiens. Que chaque fois nous prenons la Sainte Cène que Seigneur que est appelé pour chacun des chrétiens, nous devons prendre le moment de réfléchir. La Sainte Cène c'est une commémoration. Jésus a dit. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Une confession de foi, c'est la proclamation de la valeur éternelle du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Un acte de foi, l'appropriation par la foi en lui, Jésus, des bénédictions de Dieu attachées à l'œuvre de la rédemption. Une communion avec le Seigneur. Il est important de comprendre cette réalité de notre participation au repas du Seigneur. On croit et on peut savoir. Je crois et je peux expérimenter. Je crois et je peux espérer. C'est notre confession, c'est notre foi réelle. En prenant la Sainte Cène, on se souvient tout ce que nous souvient, on tout ce que Seigneur qu'il a fait dans notre vie. Donc, je vous invite de soulever et prendre un moment de réfléchir, de prière pour que Seigneur qui continue le travail dans notre cœur. Voilà, Saint-Saint, c'est réservé pour tous les chrétiens qui les baptisé. Dans différentes églises qui peuvent participer à ce groupe et le repas communion avec le Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous voulons manifester notre amour vers toi, manifester notre foi pour toi, en pensant que la période de décembre c'est le mois plus beau dans la semaine, dans l'année. Parce que c'est pas le décembre qu'il est le mois plus beau dans l'année, parce que tu es né dans ce mois-là. Imaginez si dans notre vie nous n'avons pas d'accepter comme Jésus-Christ, tout ça c'est en vain. Merci pour ce repas fraternel, le repas de Seigneur, communion, le repas de communion avec toi, de vraiment nous mettre en question que tu es venu pour nous sauver, pour nous purifier. Merci pour tout ce que tu as fait. Je prie que Seigneur, que ton esprit, dans Saint-Esprit, soit avec nous, toujours, pour vraiment qu'on puisse te soumettre et notre vie qui peut s'en consacrer entière pour toi. Merci, Seigneur, encore une fois. Gloire à ton nom. Je prie en ton nom, Jésus-Christ. Amen.